Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, pour l'interview sur RDIWA, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons dans notre studio Luc Boussard et Silver Lerouge. Bonjour.
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 Alors tous les deux, vous êtes ici pour nous parler des jardins partagés, une expérience de 2 ans. Et vous êtes là pour nous présenter un peu et aussi faire un appel à des jardiniers amateurs. Luc, justement, toi tu es jardinier dans ce jardin depuis 2 ans, donc peux-tu nous raconter comment ça se passe ?
Ben écoute, moi je suis plus tout jeune et j'aurais jamais imaginé que je me mettrais à jardiner. Et puis quand je suis venu m'installer dans le Diwa, la maison que je loue avait un petit jardin, donc je me suis mis à jardiner tout seul, sans aucune connaissance. Et puis j'ai appris l'existence de ce bout de terrain à Die avant l'existence des jardins partagés. C'était un bout de terrain qu'on utilisait avec une bande de copains, de manière un petit peu désordonnée, sans compétence. Si bien que le propriétaire a jugé que c'était pas du tout une bonne manière d'occuper le terrain et il a voulu nous le reprendre. Et à ce moment-là, Silver s'est manifesté avec une forte expérience, une bonne expérience du maraîchage et une bonne expérience d'animation, de collectivité. Donc il a été parlé au propriétaire du terrain qui a donné son accord et les jardins partagés sont nés à ce moment-là avec un financement des collectivités locales. Je ne sais plus, ben Silver nous expliquera. Et donc on est reparti sur des bases beaucoup plus saines. Et je suis absolument ravi de cette expérience, j'y suis très attaché.
Silver, alors quelles sont tes compétences en maraîchage et qui puissent en plus convaincre des propriétaires d'accepter des expériences ?
Bon, déjà, je voulais juste reposer un peu le cadre de ce projet de jardin partagé. Donc, c'est un projet qui est porté par l'association Les Potagers Rares. Donc avec les potagers rares, on a en gestion déjà depuis quelques années les jardins familiaux de l'Aube, qui sont un petit peu plus connus que ce projet. On fait aussi de l'animation avec les enfants de l'école Chabestan autour du jardinage. Et puis donc il y a 2 ans, on a avec l'association eu la volonté de monter donc un jardin vraiment collectif qu'on appelle jardin partagé. On s'est mis en quête d'un terrain et puis on avait identifié ce terrain qui était quartier de l'Aube. Et effectivement, il y a eu une petite période où il a fallu essayer de convaincre un peu les propriétaires de bien vouloir nous faire un bail pour ce terrain. Voilà. Après, en ce qui est mes compétences sur ce projet comme ça, je pense que les compétences primordiales, c'est plutôt des compétences d'animation que de maraîcher, même si il y a un côté encadrement technique qui demande d'avoir quand même quelques compétences de jardinage, mais... Là, c'est vraiment un projet collectif, donc c'est jardiner en groupe, essayer de s'organiser en groupe sur la répartition des tâches, la répartition des récoltes, et puis essayer de fédérer un groupe vers un projet. Donc là, c'était plutôt en termes d'animation qu'on a un peu défendu le projet auprès des propriétaires qui l'ont bien senti, et puis maintenant qui nous ont fait un bail de 3 ans renouvelable sur ce terrain. Donc là, on est dans la 2e année.
Ce jardin, donc, il est voué à être potager principalement. Et sur quoi est basée la culture de ces jardins, par exemple, ou même particulièrement de ce jardin de 1000 mètres carrés, je crois, où tout le monde travaille en commun sur un même jardin. Donc, comment se décide, par exemple, les semences, quelles sont les plantes qui seront mises en terre?
Luc,
tu veux que je te donne ma version des faits?
Ouais.
Alors, si tu veux, ce qui est très enrichissant sur le plan humain, c'est l'aspect collectif de notre mode de fonctionnement. Moi, je dois dire que c'est un véritable bonheur pour moi. On entend parler souvent d'intelligence collective. Et là, c'est vraiment une mise en chantier, une mise en œuvre de l'intelligence collective. Silver est extrêmement compétent dans ce domaine-là, pour les relations humaines, pour le fonctionnement des collectivités. Et si tu veux, toutes les décisions sont prises après information de tout le monde et consultation de tout le monde. Donc finalement, les décisions sont prises au consensuel. Que ce soit pour le choix des plantations, le choix des parterres où on va mettre ceci, cela. Donc on débat de tous les problèmes techniques qui peuvent se poser, les problèmes des alliances de graines, les problèmes de succession des récoltes sur les parcelles. Il y a un système de consultation et d'information qui fonctionne à la perfection. Et ça, je suis très content d'avoir découvert ça. Parce que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut savoir de quoi il retourne, il n'est pas mis devant le fait accompli. Et finalement, les décisions sont prises avec l'accord de tous, si bien qu'il n'y a pas de tiraillement. À partir du moment où les décisions sont collectives, tout le monde s'efforce de les appliquer, va dans le même sens. Ça, c'est un aspect extrêmement gratifiant que je dois dire, j'ai découvert. Je l'avais déjà un petit peu découvert à la radio, à l'époque où je faisais partie de la radio. Et je le retrouve de nouveau dans ce fonctionnement du jardin collectif.
Moi, je veux bien ajouter un peu les petits outils qu'on a mis en place pour faire fonctionner ce jardin. Déjà, ce qui est, je pense, assez important, c'est qu'on a pris le temps de monter le projet et qu'on a fait ça vraiment étape par étape, où on a une phase au démarrage qui est passée par pas mal de réunions, où on s'est posé la question avec le groupe de départ de ce qu'on voulait y faire sur ce jardin. Qu'est-ce que les gens venaient chercher ici ? Il y a sur le petit groupe de démarrage, il y avait trois grandes thématiques qui étaient ressorties. C'était d'une part l'envie de faire ensemble, faire des choses ensemble, d'échanger des savoir-faire. Il y avait une thématique qui ressortait autour de apprendre ensemble sur ce jardin. Et puis une troisième notion qui était autour de cultiver un esprit convivial et familial, essayer de rester dans la convivialité au maximum possible. Donc une fois qu'on avait fait ce petit travail, on va dire un peu des finalités du jardin, après on a continué à se réunir, on a établi ensemble une charte de fonctionnement, donc on s'est un peu posé les questions de comment allait marcher la répartition des récoltes, quelles techniques de jardinage on allait mettre en place, est-ce qu'on pouvait accepter les chiens, pas les chiens, plein de petits détails comme ça. On n'est pas parti de zéro puisque l'association est membre du réseau Page Jardin, donc c'est le réseau Rhône-Alpes des Jardins Partagés qui nous accompagne au niveau de l'association, qui nous forme et qui nous donne un peu des éléments pour aider à monter ce type de projet. Donc on a pu à la fois s'appuyer sur le réseau et puis sur d'autres jardins qui sont plus anciens. Donc ça est passé au départ par des visites de plusieurs jardins dans la région. Et puis quand on a rédigé la charte, on a pu s'appuyer sur notamment la charte d'un jardin partagé qui est dans le Trièves à Mince, qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui nous ressemblait un peu. Donc on s'est inspiré de leur fonctionnement. Et ça, je pense que c'est aussi un gage de réussite sur ce type de projet, c'est de ne pas rentrer forcément tout de suite dans le jardinage et de prendre son temps avant pour se poser les bonnes questions, poser le fonctionnement. Et après, une fois que ça s'est mis en place, donc on a trouvé un fonctionnement qui aussi a été inspiré d'autres jardins partagés, mais qui consiste en gros à ce que en début de séance, donc souvent on commence avec un petit café, on attend un peu que tout le monde arrive. Après, en général, on fait un tour du jardin tous ensemble. Et pendant le tour du jardin, on va repérer toutes les choses qu'il y a à faire, qu'on va noter sur un petit tableau. Après, on va se réunir et on va se répartir les tâches. On va se demander qui a envie de faire quoi. Tiens, moi, j'ai envie avec un tel d'aller faire la grelinette. Moi, j'ai plutôt envie d'aller sous la serre faire des semis. Donc, on se répartit les tâches. Et puis, il y a une ou deux personnes du groupe qui se portent à chaque fois volontaires pour faire la récolte pour tout le monde. Donc en début de séance, il y a toujours une ou deux personnes qui disent « moi aujourd'hui je m'occupe de la récolte ». On compte combien on est et qui fait la récolte pour tout le groupe. Et à la fin de la séance, donc la séance elle dure 3 heures, on se retrouve les lundis matins de 9h à midi et les jeudis matins, et maintenant également même le samedi matin. Et en fin de matinée, du coup tout le monde repart avec sa petite récolte. Voilà, et puis après on va peut-être pas elle est trop rentrée dans le détail, mais on a aussi un système quand même de cahiers sur lesquels on consigne toutes les tâches qui sont faites, on consigne nos récoltes aussi, ce qui nous permet de faire un bilan des récoltes à la fin de l'année. Et puis, on a eu un bon travail aussi pendant l'hiver sur le plan de jardin, donc pour mettre en place le plan de culture. Et maintenant, on a un classeur sur lequel on retrouve donc le plan d'implantation des cultures. Et puis, mois par mois, on a fait une liste de tâches où on sait à peu près, quinzaine par quinzaine, ce qu'on a à faire. On a numéroté les parcelles pour savoir, tiens, aujourd'hui, il faut aller semer des épinards sur la parcelle B4. Et ça donne de plus en plus d'autonomie aux jardiniers.
Luc, je voulais te poser une question. Quel mode de jardinage pratiquez-vous dans ce terrain ?
Oh, ben on est très attachés, semble-t-il, nous tous, à l'écologie, hein, à la protection de l'environnement, si bien qu'on n'utilise absolument pas de produits chimiques. On retourne les sols le moins possible, on travaille à la grelinette plutôt qu'au motoculteur. Et on essaye de se rapprocher un peu des principes de la permaculture, d'avoir un système de culture qui soit le moins agressif possible pour l'environnement. Donc le pire qu'on puisse faire, c'est utiliser un produit pour éliminer les limaces, mais qui n'est pas un produit toxique.
Donc ce terrain qui est 2000 mètres carrés environ, vous l'avez parcellé, hein, si ça se dit. Et donc vous avez ensuite découpé en fonction de tels légumes ou de tels produits qui exigent plus ou moins de terrain.
Ben, je vais répondre et puis Sylvère me corrigera si je me trompe. On pratique la rotation des cultures. Donc c'est ça qui est le principe directeur, l'association de certains légumes entre eux et la rotation des cultures. Selon que les plantes qu'on va semer ou planter sont gourmandes en engrais, en fumure, ou pas gourmandes. Donc d'une année sur l'autre, on fait une rotation des cultures. Donc les parcelles changent de destination d'une année sur l'autre. Selon un plan très, très simple, mais très élaboré, très pertinent.
Et cette technique permet d'enrichir la terre de nouveau avec les restes de l'année précédente. Comment ça se passe? Moi, je ne connais pas trop.
Si je peux dire deux mots sur la rotation, le principe des rotations, il est d'une part effectivement d'alterner des cultures qui vont être très gourmandes et d'autres qui vont être moins gourmandes en fumier, par exemple. Et puis, ça va être aussi de faire tourner différentes familles de légumes dans le jardin pour essayer de déconcerter un peu les petites bêtes, ce qu'on appelle les ravageurs, qui peuvent des fois causer quelques soucis sur les légumes. Donc, en les changeant de place, si on a, par exemple, un doryphore qui niche à un endroit, plutôt que de lui remettre les patates au même endroit, on va les mettre à l'autre bout du jardin. Comme ça, il ne retrouvera pas sa nourriture aussi facilement. Donc, on essaye de brouiller un peu les pistes pour les ravageurs. Et puis, il y a effectivement la notion de fertilisation, quoi. Donc, cette année d'ailleurs, on a fait attention à vraiment faire des zones dans le jardin où on a regroupé tout ce qui est culture gourmande, culture moyennement gourmande ou culture moins, pas du tout gourmande, et qu'on va en faire tourner sur 3 ou 4 ans. Et sinon, juste pour dire encore un petit mot sur ce jardin-là, sa configuration. C'est un jardin qui est magnifique, sur lequel on n'est pas parti d'un terrain complètement nu. Il y avait déjà un peu d'existant, il y avait déjà un cabanon à outils, il y avait déjà un verger de fruitiers, donc avec des arbres qui sont bien développés. Donc on a notamment des cerisiers, pommiers, cognassiers, pruniers, qui étaient déjà là. Ensuite, au centre du jardin, il y a des buttes qui sont faits donc un peu en genre de mandala, en cercle, donc qui sont en rond concentrique comme ça. Donc ça, c'est un héritage qu'on a récupéré sur ce jardin qui avait été mis en place par les jardiniers qui occupaient le jardin avant, donc qu'on a maintenu et qu'on a repris. Et puis, petit à petit, on crée des petites parcelles à chaque fois qu'on trouve un petit bout de place, quoi. Donc, on occupe le terrain de plus en plus. Et puis après, on crée les parcelles en fonction des légumes, mais effectivement, on fait des parcelles là où on a de la place. Et puis après, c'est plutôt quand on fait le plan de culture, là, on se pose la question, est-ce qu'on veut manger beaucoup de petits pois, beaucoup de tomates, combien on va en faire et quelle est la place qui peut correspondre.
Thank you.
permaculture. Donc, c'est un héritage que vous avez eu du fait de ces jardins en butte.
Alors les jardins en butte, effectivement, c'est un héritage d'un stage de permaculture qui s'est fait sur 10, je crois, il y a 3 ou 4 ans, ou un stage de design où ils avaient pris ce jardin un peu en terrain expérimental, où ils avaient dessiné ce mandala en butte. Donc effectivement, c'est parti d'un stage de permaculture qui avait designé un peu ce jardin. Donc ça, on l'a pris en héritage. Après, nous, sur les pratiques qu'on met en œuvre, moi, en général, j'essaye de pas forcément mettre une étiquette particulière, que ça soit permaculture, agroécologie, jardinage au naturel, jardinage sans travail du sol, nouveau jardinage. Enfin, finalement, en termes de technique, on retrouve finalement un peu toujours les mêmes choses. Par contre, ce qui est important, je trouve, de préciser, c'est qu'on a une finalité qu'on a posée dans ce jardin, c'est qu'il y ait un côté quand même productif, c'est-à-dire qu'on fasse ça pour le plaisir, mais avec la vocation quand même de se produire un peu à manger dessus, donc avec quand même l'objectif de réussite. Et puis, à côté de ça, on laisse une bonne part à l'expérimentation, c'est-à-dire que, par exemple, cette année, on a fait les pommes de terre, on a fait un carré classique où on a désherbé un carré de terre planté dans la terre qu'on va buter comme le papy du coin. Et puis on a fait à côté un autre carré sur lequel on a fait donc directement poser les pommes de terre sur l'herbe avec du carton et une couche de paille par-dessus, où là, ce qui sont des techniques complètement nouvelles. Et puis c'est un peu valable pour pas mal de choses dans le jardin. Des fois, quand on se pose la question, tiens, ici on pourrait mettre le fumier comme ci ou comme ça, ou on pourrait semer comme ci ou comme ça, finalement la technique, les décisions qui arrivent, c'est qu'on va faire, on va essayer, on va faire la moitié comme ça et la moitié autrement, et on laisse une bonne part à l'expérimentation.
C'est ça, si tu veux, pour moi, il y a les deux aspects. On a des procédés de jardinage qui sont extrêmement traditionnels, parce que finalement, avant l'agriculture industrielle, les paysans connaissaient très bien leur métier et ils le menaient très bien. Donc on a un espèce d'attachement à la tradition, en même temps un côté complètement novateur, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire des expériences. On innove dans la tradition.
Et on pratique beaucoup le mulch. L'année dernière, on a énormément... Donc le mulch, c'est apporter de la matière organique pour couvrir le sol. On connaît le mulch de paille, le paillage à la paille, sauf que nous, par exemple, l'année dernière, on a fait beaucoup de mulch avec des feuilles mortes. Donc tout l'automne-hiver, le jardin était intégralement recouvert de feuilles mortes, donc il y a eu beaucoup de voyages faits à la déchetterie, où on a été plusieurs fois en mission se remplir des sacs de feuilles mortes. Et voilà, ça c'est un exemple de pratique qu'on met en place.
C'est censé amener quoi, particulièrement les feuilles mortes, par exemple ?
Les feuilles mortes, alors, dans les mouvements agroécologie, permaculture, etc., il y a cet exemple qui est toujours un peu le rêve à imiter, c'est la forêt. La forêt qui est hyper fertile, qu'on ne travaille pas, qu'on ne fertilise pas, qui travaille toute seule et qui produit des arbres gigantesques. Donc le mulch de feuilles, c'est directement inspiré de la forêt. Et l'avantage ou l'intérêt de mettre des feuilles sur son jardin, en gros, on dit en jardinage écologique qu'il faut éviter au maximum de laisser le sol nu, parce qu'on va essayer de favoriser donc, une vie qui est présente dans le sol, qui grouille d'insectes, de micro-organismes, de bactéries, qui ont horreur du soleil, qui sont des travailleurs de l'ombre, qui ont besoin de travailler sous une litière. Donc en forêt, il y a toujours une litière en permanence qui est agrémentée de feuilles, de branchages. Donc déjà, c'est essayer de garder cette litière, donc son sol à l'abri des rayons de la lumière pour que les vers de terre soient au frais en dessous. Après, il y a un deuxième intérêt, c'est de donner à manger à toute cette faune. Donc les vers de terre, ils mangent de la matière organique. S'il n'y a plus rien à becquer, à un moment, ils vont aller chez le voisin. Donc on leur donne à manger pour les nourrir et puis pour qu'ils se multiplient. Et puis, il va y avoir aussi l'intérêt de limiter l'enherbement, puisque quand son sol il est couvert, ça fait une couche qui va empêcher ce qu'on appelle couramment les mauvaises herbes ou les adventices de pousser. Donc on va s'éviter la tâche de désherbage. Et puis, il y a encore un dernier intérêt, c'est conserver l'humidité dans le sol. Donc c'est tout bénef.
Vous êtes plutôt dans la pratique de ne pas toucher la terre, en somme.
Ben on la touche quand même, hein. C'est quand même pas de tout repos. On travaille à la grelinette, on remue le sol à la grelinette. Et parmi les auditeurs,
c'est quoi la grelinette ?
La grelinette, c'est un outil à dents qu'on enfonce dans le sol, qui a une rangée de dents et deux manches, hein, de chaque côté. Donc on l'enfonce dans le sol et on le tire en arrière pour simplement remuer le sol, l'aérer. Mais sans le retourner, comme le ferait un motoculteur. Un motoculteur, il va ramener à la surface des couches profondes, et c'est très néfaste pour le sol. Nous, on n'abîme absolument pas le sol, mais c'est quand même physique. Le travail du jardinage est quand même physique. Même si, par exemple, avec les buttes, on a moins besoin de se baisser. Parce que la butte est à hauteur de cuisse, par exemple, donc on est déjà presque... On n'a pas besoin de s'accroupir ou de se mettre à quatre pattes.
Et quel est le légume roi chez vous, alors, dans ce jardin ?
L'année dernière, on a eu beaucoup de tomates, beaucoup de salades.
Moi, je ferai un petit clin d'œil au choucal.
Le choucal, ouais.
C'était une découverte l'année dernière. Donc, le choucal, c'est un chou qui ne fait pas de pommes, tu vois. C'est un chou frisé qui se récolte feuille à feuille, qui est bien connu chez les Hollandais, que les Hollandais consomment beaucoup. Au moment de faire la commande de graines, on avait commandé un peu ce chou un peu par hasard, qu'on ne connaissait pas. Et puis quand on a fait nos semis, nos plants de choux, alors on en a eu une quantité de ces choucals, donc on en a mis dans tous les coins du jardin. Et puis ça nous a nourri plus ou moins tout l'hiver.
Jusqu'au mois d'avril.
Ouais, on en a récolté tout l'automne, tout l'hiver, et là, ça vient, là ils sont en fleurs depuis peu là. Et ouais. Ça a été un peu la découverte.
On a échangé des recettes, tout le monde a trouvé ça délicieux.
Et vous parliez de fleurs, je suppose, ça veut dire des graines. C'en est où alors l'histoire de la vente ou la réutilisation de graines au niveau de la loi ?
Nous, de toute façon, dans le domaine jardinier amateur, on a moins de contraintes qu'un maraîcher professionnel. Donc on reproduit nos graines allégrément, sans trop se poser de questions, et puis on est dans la légalité. Après...
Et puis il y a les trocs de graines aussi.
Voilà, cette année on a organisé 3 trocs de graines, donc on essaye de favoriser les échanges de semences. D'ailleurs, au jardin, nous on a pris un peu le parti pris de ne pas travailler avec les variétés hybrides, donc on n'a que des variétés dites anciennes, qui sont reproductibles. L'année dernière on a notamment reproduit pas mal de salades, de fleurs, on a dû faire des graines de coriandre, de tomates cette année,
de piment, de poivron,
ouais.
Par exemple en salade, il y avait combien de variétés dans vos jardins?
Demi-douzaine, pas loin.
De salades?
Oui.
Oh, je sais pas, moi peut-être, ouais, peut-être
4 ou 5,
ouais, 4 ou 5, ouais.
Les tomates, bien plus, par contre, beaucoup je plus, suppose.
Ouais, une tomate, cette année, on devait avoir près de 20 variétés, je crois.
Ces vieilles variétés, est-ce qu'elles peuvent se féconder entre elles aussi et créer de nouvelles choses, ou des hybrides, comme vous dites ?
C'est un peu compliqué, la reproduction de semences. Nous, on va reproduire plutôt en priorité celles qui vont avoir tendance à ne pas se croiser, parce que c'est les plus faciles à reproduire. Après, celles qui se croisent facilement, c'est un petit peu plus technique. Donc peut-être qu'on y viendra un jour si, en prenant le temps. Mais pour l'instant, on va plutôt se diriger vers des variétés faciles à reproduire. Donc ça va être la salade, la tomate. On pourrait faire les petits pois, les haricots. Mais bon, l'année dernière, on n'en a pas eu des masses. Donc on les a plutôt mangés. Les fleurs, c'est toutes les, il y a des variétés qui, il y a des légumes qui sont plus faciles à faire, qu'on on se dirige plutôt vers ça.
Et le jardin partagé représente combien de personnes ?
Cette année, on a une quinzaine d'inscrits. Alors, justement, si vous nous écoutez là et que le projet vous tente et que vous avez envie de nous rejoindre, alors faut savoir que le jardin, il est ouvert. Aux nouveaux jardiniers, ils sont toujours, Luc, je pense que tu confirmeras qu'ils sont toujours relativement accueillis, les bras grands ouverts.
On est tout content de voir de nouvelles têtes, bien sûr.
Et donc pour venir au jardin, il faut déjà pouvoir être disponible les jours où on jardine ensemble. Donc c'est le lundi matin, le jeudi matin et le samedi matin, qui est un peu moins fréquenté, le samedi matin. Disons que le lundi matin, le jeudi matin, il y a moi, l'animateur, qui est présent. Le samedi matin, les jardiniers sont en autonomie. Si vous avez envie de rejoindre le jardin, donc ça peut être directement passer un de ces jours-là, venir nous rencontrer. Pour trouver le jardin, il faut, à partir du parking de l'école Chabestan, il y a un panneau qui flèche jardin partagé, jardin familiaux. Là, on traverse les jardins familiaux et ensuite on suit le fléchage. Il y a deux panneaux qui vont vous amener jusqu'au jardin partagé. Si vous voulez me téléphoner, par exemple, pour venir me rencontrer ou que je vous explique plus précisément où se trouve le jardin, je donne mon numéro de téléphone. C'est le 06 82 77 47 22. Et après, il y a encore une autre solution, c'est de passer nous voir au local de l'association, place Jules Plan, à côté de la CCD et en face de la mission locale. Voilà, mais effectivement, on est une quinzaine. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est que quand on s'inscrit au jardin, c'est sur une envie de participer au jardin. Il n'y a pas de terme d'engagement. C'est-à-dire que tu posais la question de combien on était. On est 15. Inscrit, ça ne veut pas dire qu'on est 15 à chaque fois. C'est relativement variable. Il y a des purs et durs qui viennent toutes les semaines. Il y a des gens qui viennent une semaine sur deux, il y en a qui viennent une fois par mois. Il y en a des fois qu'on ne voit pas pendant 3 mois et puis qui reviennent. C'est libre. Nous, ce qu'on demande juste dans le fonctionnement, c'est de faire la séance entièrement, c'est-à-dire dans la mesure du possible d'arriver à 9h au moment où on se répartit les tâches et d'aller jusqu'à midi au moment où on se répartit la récolte. Quand on s'inscrit, c'est bien d'avoir en tête que le jardin, ça se fait un peu sur les 4 saisons. Et puis voilà, mais sinon il n'y a aucune obligation à être là toutes les semaines.
Oui, je voudrais rajouter d'autres petits détails. La première chose, c'est qu'il y a quand même une cotisation, je ne me rappelle plus combien c'est, à payer à l'année.
Oui, alors il y a une cotisation de 15 euros pour l'année, plus l'adhésion à l'association qui est 10 euros ou 5 euros pour les petits budgets.
Voilà, donc c'est pas bien cher. Un deuxième point que je voulais ajouter, c'est qu'une bonne occasion de nous rencontrer aussi, ça va être la fête des jardins partagés qui va se tenir au mois de juin, si je me souviens bien.
On fera une porte ouverte, donc là ça sera jardins partagés et jardins familiaux, donc on peut déjà donner la date, ça sera le 4 juin, le samedi 4 juin.
Je voudrais résumer brièvement pour moi ce qui m'attache beaucoup à cette expérience. Il y a d'abord un double apprentissage, on apprend le fonctionnement collectif, et ça c'est extrêmement précieux, extrêmement enrichissant pour soi-même et pour les autres. Ensuite on apprend le jardinage, moi tout ce que je sais du jardinage, je l'ai appris au jardin partagé. Et puis le troisième point qui n'est pas à négliger non plus, on ramène des légumes à la maison. Donc voilà, 3 bonnes raisons de venir nous rejoindre.
Et ces légumes à la maison, ça aide beaucoup au niveau du budget ?
Disons que ce n'est pas des grosses cagettes, mais selon les saisons, on repart quand même toujours avec quelque chose. Et il y a des fois où c'est sympa, l'été, il y a pas mal de choses l'été. L'été, entre les tomates, les courgettes, les concombres, les blettes, les haricots. Mine de rien, pour les gens qui viennent toutes les semaines, ça fait un complément qui n'est pas négligeable.
Et puis avant, là, jusqu'au mois d'avril, il y avait les choucals, maintenant il y a les radis et les salades. On ramène toujours un petit quelque chose à la maison, au moins pour un repas, 2 repas.
Et en parlant d'été, ça va pour l'eau, il n'y aura pas de crainte à venir.
Alors, au niveau de l'eau, on est quartier de l'Aube, donc on est irrigué par le canal des fonds d'eau qui traverse l'Aube et qui irrigue ensuite le Perrier. L'année dernière, ça a été un peu critique au niveau de l'arrosage parce que le canal s'est retrouvé à sec pendant quasiment tout l'été. Là, les choses évoluent un petit peu avec notamment la préfecture sur l'usage du canal, où il y a eu une modification du débit réservé. Donc on espère que cet été, il y aura de l'eau dans le canal. C'est sûr que, non seulement pour nous, mais tous les jardiniers, que ce soit des fonds d'eau, de l'Aube ou du Perrier, C'était assez critique l'année dernière et on espère vraiment que la situation va s'arranger parce que c'est des centaines de jardins qui sont menacés à dit. Donc bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails techniques parce que c'est un peu compliqué, mais c'est une loi européenne sur la protection des rivières qui est rentrée en application il y a 2 ans, qui oblige à donc qui a un côté intéressant aussi, qui oblige à garder un minimum d'eau pour la rivière Méros notamment, pour la conservation de la biodiversité, des poissons. Donc ça c'est très important, mais alors après derrière c'est un combat de chiffres où c'est des experts qui déterminent des débits et puis là on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres. Donc après c'est un débat avec l'administration qui est long et assez laborieux.
Ce que je crois avoir compris en tout cas c'est que on n'est pas du tout les seuls à être concernés. Si mes informations sont justes, il y a environ 250 jardins autour de Die. Et des gens qui s'en servent pour leur propre alimentation, ce sont des cultures vivrières, et c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Donc Die est depuis toujours une ville de jardiniers. Et si les choses continuent comme l'année dernière, eh bien la grande, immense majorité de ces jardins vont dépérir, vont tout simplement disparaître. Et donc il va y avoir 250 familles de jardiniers qui vont se trouver privées d'une activité et d'une source d'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour suivre cette affaire.
Sans rentrer dans les détails, pourquoi ces intentions, mis à part peut-être préserver la nature et la flore, mais pourquoi ces chiffres décidés au niveau de l'Europe et qui semblent avoir été fixés sans vraiment de concertation ?
Moi je crois que c'est le problème des lois qui sont globales, c'est que c'est une loi qui est proposée pour toute l'Europe. Je crois aussi que la France, dans ce genre de cas de loi européenne, ils ont tendance à prendre la version un peu dure de la loi. Et puis après, et bah, quand on a une loi à si grande échelle, et bah, il n'y a plus trop de place au cas par cas. Et nous, la particularité de Die, c'est qu'on est lié à des rivières de montagne, qui sont plus des torrents que des rivières, qui sont très fluctuantes. Et qui peuvent être pleines d'eau suite à un orage et pendant quelques jours, et puis complètement à sec 3 jours après. Et d'appliquer un débit constant sur l'année sur ce type de rivière, et ça ne fonctionne pas. Donc il y a des gens à Die qui se battent avec l'administration depuis 2 ou 3 ans pour essayer de démontrer aux autorités de l'État que cette loi ne peut pas être appliquée sur ce type de rivière et que ça ne correspond pas à notre territoire. Mais là, on bute sur des textes de loi et après, c'est très long avec la France de faire avancer les choses. Donc voilà, nous, on se mobilise au niveau de l'association comme on peut. On s'invite maintenant dans la réunion en préfecture pour aller défendre un peu la parole des jardiniers. On essaye de suivre de ça au mieux. Et voilà comment moi je pense qu'on peut expliquer un peu ça. C'est des gens dans des bureaux très loin qui pondent des textes, et puis la réalité sur le terrain elle est souvent différente.
Est-ce que vous, je ne sais pas hein, si c'est possible, mais est-ce que vous avez pu chiffrer la consommation d'eau sur votre jardin par exemple ?
On n'a pas fait d'études chiffrées, mais on sait que à chaque séance d'arrosage, on doit passer environ 200 litres, quoi.
Ouais, un peu plus.
Oui, peut-être un peu plus en été.
L'année dernière, je ne sais plus, je crois. Mais on a arrosé à minima parce que on a trouvé de l'eau comme on a pu, mais on avait arrosé au minimum. Pour 1000 mètres carrés, je crois qu'on doit être entre un demi-mètre cube et un mètre cube, entre 500...
À chaque séance ?
Par semaine.
Par semaine.
On doit être entre 500 et 1000 litres par semaine.
Et il n'y a jamais eu d'idée de citerne ou de réserve d'eau qui se remplissent l'hiver ou les saisons de froid et qui puissent fournir l'eau l'été ?
Ah bah ça, on ne manque pas de réfléchir au sujet. on a beaucoup de réunions. D'ailleurs, un point important du jardin partagé, c'est qu'il y a une réunion avec tous les jardiniers une fois par mois où on parle aussi bien des questions d'organisation, des questions de vie du groupe que de questions de l'eau, qui est une question qui revient souvent.
Ou des chantiers à mettre en route, comme les toilettes.
Voilà. Il y a aussi un côté où on aménage le site. Donc il y a des bricoleurs dans le groupe qui font ça très bien. On a évoqué beaucoup de solutions. Après, c'est pas, il n'y a pas une solution idéale, quoi, parce que stocker de l'eau, si on consomme presque 1000 litres par semaine, pour stocker de l'eau pour 2 mois, et ben, il faudrait pas mal de réserves, quoi. Voilà, on a étudié l'histoire du forage, où on a un petit peu du mal à se lancer parce qu'on n'est pas sûr de la profondeur à laquelle est l'eau. On n'est pas sûr de trouver l'eau si facilement, ça a un certain investissement. Donc voilà, pour l'instant, on réfléchit à plusieurs solutions. Il y a l'histoire de... On pourrait très bien aussi se raccorder à l'eau de ville pour carrément payer son eau, même si ce n'est pas l'idéal. Mais en fait, on essaye de trouver une solution pour au moins faire survivre le jardin pendant l'été, ouais.
C'est une eau... L'eau de ville n'a aucun traitement particulier pour être alimentée. Consommer.
Voilà. C'est pas l'idéal. Après, Adi, c'est quand même de l'eau de source. C'est les meilleures qu'à Paris, quand même.
Bien, je rappelle quand même ces journées du 4 juin au jardin partagé.
Puis les journées donc du jardin collectif. Donc lundi matin, jeudi matin, samedi matin. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez rejoindre le groupe.
Eh bien, Luc et Silver, merci d'être venus et bonne soirée.
Merci à Radio Diwa.
Interview. 1 Terre.
Okay, the bird.